14h, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Nous avons une heure pour mettre en avant vos projets, vos initiatives. Chacun, à son échelle, a la capacité d'améliorer le monde après cette crise inédite et donc incertaine. À mes côtés, Élise Dangean, aujourd'hui de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Élise.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Et notre coach de la semaine, hein, pas du jour, hein, il reste avec nous pendant toute la semaine, c'est Luc Le Sénécal. Bonjour Luc.
Bonjour Elisabeth, bonjour Élise.
Vous êtes le président de Saint-James. Alors pas simple, hein, on le voit chaque jour hein, dans notre émission, de se lancer pendant la crise. Et pourtant, ils l'ont fait, ils ont osé comme vous. Bonjour Florence Témim.
Oui, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour Alieu, bonjour Élise.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la cofondatrice de LAFT, oui. L-A-F-T. Oui. LAFT, oui. C'est une toute nouvelle marque de kits d'hygiène personnalisable dédiée aux entreprises. Vous avez démarré au début de l'année, mais alors là, avec la crise, c'est devenu incontournable et de plus en plus évident. De quoi s'agit-il? On vous écoute. Oui. Vous avez... Attendez, 1 minute 30, c'est parti.
Ok, alors donc j'ai créé effectivement cette société qui s'appelle LAFT Beauty Vision Care et en fait c'est une société qui propose aux marques, aux grandes chaînes de magasins, aux cabinets dentaires, aux cliniques, des kits logotisés dans lesquels se trouvent les éléments nécessaires à l'accueil de leurs visiteurs et surtout en période épidémique puisque c'est évidemment le Covid-19 qui nous a donné cette idée. Alors notre produit phare s'appelle le WeCare Kit. C'est une petite pochette logotisée avec à l'intérieur deux dosettes de gel hydroalcoolique et un masque jetable ou un masque réutilisable en fonction de ce que les marques vont choisir. Et bien et les marques, en fonction de leur business model, après choisiront soit de l'offrir à leurs visiteurs, soit de les vendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces kits se déclinent en fonction des secteurs d'activité parce que il y a des nouvelles règles qui apparaissent en fonction des secteurs d'activité et des normes d'hygiène donc sont imposées, que ce soit en France, mais également à l'étranger, parce qu'on est en train de parler avec les États-Unis, avec l'Angleterre, où on a des partenaires. Alors, la grande nouveauté, quand même, et je tiens à le dire, c'est que nos produits sont entièrement et intégralement fabriqués en France, que ce soit les dosettes de gel, les masques et la pochette extérieure du kit. Ça a été une difficulté majeure pour nous, d'abord de trouver l'usine, qui nous permette non seulement de fabriquer, hein, mais aussi d'associer tous ces composants en France. Et une véritable difficulté parce que, évidemment, les coûts français ne sont pas ceux de la Chine. Alors, maintenant, voilà, avec
et voilà,
les
Florence,
transports...
Ouais, 1 minute 30.
C'est plus
Non, ça s'est écoulé. Le pitch, il faut le resserrer un petit peu quand même. Dans le pitch, les difficultés, vous pouvez les aborder après au cours de la conversation. Mais sinon, globalement, ça allait. On a compris. Hein, on a compris ce qu'était LAFT. Donc, cette marque de kit d'hygiène personnalisable pour les entreprises. Je me tourne tout de suite vers Luc Le Sénécal, notre coach du jour.
Oui, alors Florence, oui. Je pense que votre
bonjour,
initiative
Luc.
Et votre idée est... Bonjour Florence, est excellente.
Bonjour Luc.
Oui. Moi, j'avais deux questions. Une question et une remarque. Ma première question, est-ce que on est tous un petit peu en période de déconfinement, est-ce que vous sentez un relâchement ou pas des entreprises, déjà?
Alors, on sent un petit relâchement, mais pas tant que ça. Puisque moi, j'ai rencontré quand même plusieurs directeurs d'entreprises, de groupes, hein, de grands groupes, pour qui le sujet est au COMEX. Donc, c'est un sujet qui est d'actualité.
Bah oui, aujourd'hui, et toutes
niveau,
les entreprises. Hein.
Au plus haut niveau de toutes les entreprises. Hein, donc, mais par contre, il y a une difficulté majeure quand même, c'est que toutes les entreprises ont des problèmes financiers, et même les plus grosses, et donc elles sont à la fois tiraillées entre le fait de pouvoir se prémunir, mais il y a aussi un investissement à faire. Donc, mais c'est un sujet qui vraiment à la tête de toutes les sociétés et dans tous les secteurs. Hein,
mais c'est pas
ce
déjà
soit dans
fait.
La
douane... j'ai l'impression que peut-être dans les grands groupes c'est déjà fait. Vous adressez plutôt aux plus petites.
Pas du tout, c'est pas déjà fait d'abord.
C'est en cours.
Parce que qu'est-ce qui est fait en fait? Qu'est-ce qui est fait? C'est vous arrivez quelque part et même dans l'alimentaire, hein, parfois vous avez une espèce de grand bac avec des masques, vous avez à côté la dosette qu'on pousse avec les mains, donc tout le monde pousse avec la même main, donc c'est pas du tout hygiénique. Et puis surtout, c'est pas présentable. Donc imaginez un grand groupe un peu haut de gamme qui accueille ses visiteurs comme ça, c'est pas possible. Et puis en plus, aujourd'hui, il y a des règles qui vont changer, qui sont en train train de changer et il va falloir s'adapter à tous les secteurs. Donc là, moi, je vous ai parlé tout à l'heure d'un kit qui était le kit un peu le plus simple pour le retail, ça veut dire pour les magasins, mais il y a d'autres choses qui arrivent et qui nous sont demandées. Et donc, non, les gens n'étaient pas prêts. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y avait une...
Enfin, ça s'organise, c'est ça que je voulais dire. C'est en train de s'organiser. Élise,
oui. Il n'y avait pas de production. Il y avait des coûts énormes parce que ça tout venait de la Chine. Il n'y avait pas de production. Donc, il n'y avait personne.
Que ça vienne de la France, c'est excellent.
C'est
et je pense que vous avez une réelle opportunité cet été. Parce que cet été, toutes les entreprises ont parié que les Français vont rester plus en France. Et il va y avoir des visites d'entreprises, ce qu'on appelle le tourisme de savoir-faire. Et je vous... Rapprochez-vous des métiers d'art, des entreprises du patrimoine vivant qui vont ouvrir leurs portes aux touristes. Mais il faut que ça soit en toute sécurité. Et offrir ou donner ces kits ou même les ventes, c'est essentiel. Oui. Et d'autant plus qu'ils sont offerts en France. Parce que là, vous mettez l'accent sur une mobilisation exceptionnelle des entreprises françaises pendant la crise autour de ces mesures de prévention.
Ça peut être, ça peut être une solution, ces contrats futurs avec les entreprises du patrimoine vivant, comme vous le suggère Luc Le Sénécal. Élise Dangean, une question pour vous.
Oui, je voulais savoir le prix de vos kits, notamment la pochette phare dont vous avez parlé, avec deux dosettes de gel hydroalcoolique et un masque, par exemple.
Alors là, tout va dépendre des quantités, en fait, parce que si vous voulez, aujourd'hui, quand vous commandez 25 000 pièces ou quand vous en commandez 100 000, c'est pas la même chose. Donc, des grands groupes peuvent en commander 100 000, même plus, parce que c'est en fonction du nombre de visiteurs qui vont arriver. Donc, nous, ce qu'on essaye, c'est de faire descendre ces prix. Aujourd'hui, je peux vous dire que le prix le plus cher, en fait, c'est à peu près pour 25 000 pièces, puisque les usines ne travaillent pas en deçà. Il faut le savoir quand même. Donc, pour 25 000 pièces, le prix varie entre 2,90 € et 3,50 €. Ça dépend de ce qu'on va y mettre dedans. Quand on parle de grands groupes qui vont commander vraiment pour tous leurs visiteurs, eh ben, dans ce cas de figure, on peut faire descendre vraiment le prix plus bas. Je pense que les sociétés françaises sont prêtes à jouer le jeu. Mais il faut commander et il faut avoir des grosses quantités.
Donc, c'est un prix tout à fait abordable et la sécurité sanitaire n'a pas de prix.
Exactement.
Exactement. Oui, parce que Clermont de Bois, ça coûte beaucoup plus cher, en vérité.
Voilà. Ça s'appelle LAFT, L-A-F-T. Merci à vous, Florence Thémy. Mais surtout, donnez-nous de vos nouvelles. Nous, on adore ça, la France bouge.
Il est 13h15. Europe 1.
Cette année, pas de photos de classe, si elle n'a pas été prise avant la crise du coronavirus. Mais il existe une solution, photosdeclasseconfinée.fr. C'est la solution du jour à découvrir avec Élise Dangean aujourd'hui. À tout de suite.
Il est 13h17, c'est l'heure dans la France bouge d'écouter la solution du jour, Elisabeth, et aujourd'hui c'est avec Élise Dangean.
Et oui, la photo de classe se réinvente et les écoles sont fermées, distanciation sociale oblige. Elle se fait désormais à distance et c'est la solution du jour avec ma photo de classe confinée.fr avec vous, Élise Dangean.
Oui, la photo de classe a survécu à toutes les réformes de l'enseignement et elle survivra aussi au coronavirus grâce à ma photo de classe confinée. Un site internet créé, vous vous en doutez, par des parents. Ils sont trois et dirigent en temps normal la start-up Be My Desk, qui propose tout autre chose, des ateliers en visioconférence avec des experts. Bref, c'est un virage à 180 degrés, compris ces trois jeunes papas, et ils sont partis d'un constat assez simple. La photo de classe est un souvenir d'enfance très précieux. Je suis presque sûre que vous avez gardé certaines des vôtres. Alors concrètement, si l'établissement de votre enfant est inscrit sur maphotodeclasseconfinée.fr, il vous suffit d'envoyer la photo de votre progéniture sur le site internet pour recevoir, une fois que la classe sera au complet, le cliché de groupe sous la forme d'un trombinoscope stylisé. Et cette solution, c'est vous, Romain Serre, qui l'avez créée. Bonjour Romain.
Bonjour Élise et merci pour votre invitation.
Avec plaisir. Alors d'abord, expliquez-nous avec plus de détails comment ça fonctionne, ma photo de classe confinée.
Oui, alors effectivement, on a lancé l'idée et commencé à communiquer sur notre projet il y a un mois. Et c'est vrai qu'on avait besoin dans un premier temps de recueillir l'intérêt d'un minimum de chefs d'établissement ou d'associations de parents d'élèves pour valider la faisabilité du projet. C'est important qu'ils prennent part à notre initiative en se pré-inscrivant, car ce sont eux pour nous les premiers relais en fait auprès des parents d'élèves. Donc aujourd'hui, on a plusieurs centaines d'écoles, de collèges, de lycées qui se sont pré-inscrits. Et on est heureux effectivement de pouvoir annoncer que notre plateforme a été développée et est en ligne depuis vendredi dernier. Donc vous pouvez la trouver sur www.mafotodeclasseconfiné.fr, confiné avec deux E à la fin. Mmh. On est également présent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et donc effectivement, comment ça fonctionne, c'est très simple. Dans un premier temps, il faut que l'école, le collège ou le lycée, par le biais des enseignants ou chefs d'établissement, ou alors même l'association de parents d'élèves, inscrivent l'ensemble de ces élèves classe par classe sur notre plateforme et renseignent l'adresse email de leurs parents.
C'est vachement bien.
C'est très simple. Et ça alors envoyer en fait automatiquement, excusez-moi, cela va alors envoyer automatiquement un mail en fait à chaque parent avec un lien unique pour assurer la sécurité des données. Et ça va les inviter à télécharger la photo de leur enfant.
Et combien ça coûte ? C'est pour l'établissement ou pour les parents ?
Non, ce sont les parents, effectivement. Donc, on demande en fait une participation de 2 euros en fait dans l'opération, sachant que la moitié des bénéfices qui sont retirés par cette opération va être reversée à la recherche médicale.
Luc Le Sénécal, notre coach, a une question pour vous.
Oui.
Luc.
Oui, pardon.
Oui.
Romain, j'avais une question. Avec votre expérience là depuis un mois, quel est le taux d'absentéisme ? C'est-à-dire combien d'élèves vous avez en moyenne par classe ?
Alors, aujourd'hui c'est un peu tôt en fait pour pouvoir vous répondre parce qu'on manque de retour d'expérience, sachant que la plateforme est en ligne depuis vendredi dernier.
Ah pardon, j'ai cru que c'était un mois, excusez-moi.
C'est vraiment la solution de la crise, quoi. Voilà, les enfants ne sont pas tous réunis et bien on peut les réunir grâce à cette photo de classe. Élise.
Alors moi j'ai une question sur les règles. Est-ce qu'il y a une charte, des règles précises à respecter pour l'envoi des photos?
Oui, alors en fait, on a un process, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc effectivement, une fois que l'établissement ou l'association de parents d'élèves a inscrit sa classe ou son établissement avec l'ensemble des élèves et l'ensemble des adresses mail des parents, cela va envoyer donc automatiquement un message aux parents pour les inviter à télécharger la photo de leur enfant. Ensuite, la personne qui a inscrit sa classe, donc soit une personne de l'établissement ou de l'association de parents d'élèves, va pouvoir alors décider de générer la photo de classe une fois que l'ensemble des photos individuelles sera collectée ou qu'il juge qu'il y a suffisamment d'élèves qui ont envoyé leurs photos. Et une fois la photo de classe éditée, donc les parents vont recevoir une notification par mail pour venir télécharger la photo directement sur notre plateforme.
Mais on peut vous envoyer n'importe quel type de photo à n'importe quel format.
Alors on nous envoie pas directement à nous, mais c'est effectivement à uploader en fait sur la plateforme, sur des formats classiques de photos, sur effectivement des gros plans, enfin de leur visage effectivement.
Pour la plateforme, on passe ça peut être via un smartphone ou c'est uniquement via le site internet ? C'est pas une application ?
Non, c'est pas une application. On passe directement vers le site internet, effectivement.
Alors, aujourd'hui, vous avez démarché beaucoup d'écoles en France, des écoles élémentaires, des collèges, des lycées.
Alors, effectivement, nous, on s'adresse à toutes les écoles, donc soit école maternelle, école primaire, collège et lycée. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a commencé en fait l'opération et la communication il y a un mois. Donc, on a plus de 500 établissements qui sont préinscrits, qui représente un peu plus de 60 000 élèves qui pourront avoir effectivement une photo de classe confinée. Donc effectivement, par ce biais, moi j'invite vraiment l'ensemble des chefs d'établissement, des enseignants qui nous écoutent et toutes les associations de parents d'élèves à s'inscrire sur notre plateforme, mais aussi à tous les parents qui souhaiteraient avoir une photo de classe confinée, à en parler aux enseignants et aux chefs d'établissement pour pouvoir en faire bénéficier au plus grand nombre.
Ça s'appelle photodeclasseconfinée.fr qui vous permet donc de faire la traditionnelle photo de classe pendant cette année si particulière. Merci.
Il est 13h24. Europe
1. Restez avec nous, les commerces souffrent plus que jamais de cette crise sanitaire. Comment les aider ? Le secteur se digitalise pour surmonter la crise. On en parle dans un instant. A tout de suite.
Dans la France bouge, cet après-midi, on s'intéresse dans le dossier du jour au retail, le commerce de détail, maillon final de la chaîne de distribution et à la façon dont le secteur se digitalise pour surmonter cette crise.
Mais oui, mais aujourd'hui, c'est important pour les magasins physiques de proposer une vitrine de leurs produits, une vitrine virtuelle. Et c'est ce que propose la start-up Diask, D-I-A-S-K-E, qui permet aux commerçants d'être présents sur Internet. Bonjour Julien Berthomier.
Bonjour Elisabeth, bonjour Lise et bonjour Luc.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Diasc. Alors Diasc, ça existe depuis 5 ans. Vous êtes 12 personnes dans l'entreprise. Alors vous, vous avez énormément travaillé. On peut dire que vous avez explosé hein, pendant le confinement pour les commerçants. Parce que les commerçants se sont dit, si nos clients ne peuvent pas venir nous voir, qu'est-ce qui existe pour que l'on vienne directement à eux? C'est un peu ça. Hein.
Oui, c'est exactement ça.
Alors comment c'est-à-dire ça que... s'est passé?
Bah en fait, on avait un rythme de travail à peu près, on faisait 2-3 boutiques par mois les mois précédant la crise. Donc c'est une solution qui existe déjà, hein, qui permet de digitaliser des magasins. Et puis le jour de la crise, tous nos clients nous ont appelés en nous disant on arrête tout, c'est terminé, c'est fini. Et puis la semaine qui a suivi, on a eu une dizaine de demandes, la semaine suivante une vingtaine, la semaine suivante une quarantaine. Voilà, donc là on est en train d'essayer de stabiliser les choses. Mais alors, ça marche plutôt très bien parce que l'idée, alors pour
qu'est-ce
présenter...
Qu'est-ce qui marche bien, voilà, quel est le principe?
L'idée, en fait, c'est au début, ça vient du e-commerce. C'est-à-dire que le e-commerce, c'est une expérience, on nous parle d'expérience client, mais en réalité, depuis 15 ans, l'expérience n'est pas top. C'est des images et des descriptifs pour vendre des produits. Et on s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment, puisque l'expérience est importante, de créer des boutiques virtuelles où les gens vont vraiment pouvoir faire du shopping. Donc, on prend des photos, c'est des photos 360, hein, un peu comme on peut le voir sur différentes applications. Et notre technologie permet pour un commerçant d'aller après rajouter et retirer ses produits, gérer son stock dans sa boutique, comme s'il avait un vrai magasin.
Comme exactement. Dans un rayon classique.
Exactement. Et donc, par exemple, alors c'est plutôt pas du rayonnage, c'est plutôt des boutiques qui mettent en situation leurs produits, qui les mettent en avant.
Par exemple.
Donc là, récemment, pendant la crise, on a fait une boutique, c'est Chamberlain. C'est une marque qui fait des souliers haut de gamme sur mesure, qui a une boutique d'ailleurs pas loin de la place Vendôme, qui souhaite présenter cette boutique et ses différents produits mis en situation, ses souliers, et les présenter aussi à des clients étrangers, puisque pendant la crise, il faut élargir le marché.
Il n'y a pas de tourisme, donc il faut que ce soit...
Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est le client peut se balader, visiter la boutique comme s'il était dans la vraie boutique, cliquer sur les produits, les acheter, voilà, les ajouter au panier, les acheter, en ayant une vraie expérience de shopping. Voilà.
Luc, notre coach.
Oui, bonjour Julien. Je trouve que votre idée ne peut que nous séduire, et particulièrement avec ma casquette Saint-James, avec nos boutiques. Mais j'avais deux questions. Est-ce qu'il faut que le commerçant ait un site internet? Et puis, est-ce que vous avez une taille de boutique maximale où ça s'adapte à tous?
Alors, un site internet, non, il n'a pas forcément besoin d'en avoir un.
Mais c'est justement pour ce genre de clients, ceux qui n'ont pas de site internet.
En fait, les deux. C'est-à-dire qu'on travaille pour des pure players qui n'ont pas de boutique physique, ou voire pas de site internet. Donc là, par exemple, on va sortir une marque, c'est Audrey Alexandre, c'est des sacs à main qui n'avaient pas de site internet, pas de boutique, et on crée une boutique virtuelle à partir d'un appartement. Donc l'idée, c'est de faire visiter un appartement parisien au client et de contextualiser les produits pour une marque qui n'avait justement pas ses magasins et qui se lançait. Mais on peut aussi travailler donc avec des marques conséquentes qui ont une plus grosse quantité de produits, pour répondre à votre question, en créant différents univers. L'idée, c'est le visiteur va arriver pas pour voir, je sais pas moi, une gamme de produits du mobilier, et on pourra l'emmener directement dans la zone mobilier du magasin où il va pouvoir découvrir les produits. Donc on n'est pas limité par la taille. C'est aussi tout l'intérêt, c'est qu'on n'a pas un système de facturation à la surface comme peuvent le coûter les boutiques qu'on achète en dur, j'allais dire. Nous on n'est pas limité par la surface, on peut créer un espace aussi grand qu'on le souhaite et donc présenter différents produits sans être obligé de les serrer dans du rayonnage. C'est pour ça que j'ai rebondi sur rayonnage tout à l'heure, et les mettre en situation dans une expérience où on se déplace de manière assez sympathique pour découvrir une gamme de produits.
Et proposer tout son stock qu'on ne pourrait pas forcément proposer dans le magasin.
Exactement. Physique. Il y a d'ailleurs des clients qu'on utilise qui font ça, qui utilisent en fait. Dans leur magasin, les clients viennent, ils ont vu des produits sur Internet, puisque souvent les clients vont se renseigner sur Internet. Ils veulent voir la table, ils veulent voir le modèle en bois, et puis on n'a pas ce modèle-là à exposer. Donc le commerçant a son masque, un petit masque de réalité virtuelle, un truc à 15 € qu'on peut acheter partout, et puis il va pouvoir le faire voir au client qui vient dans le magasin, dans une boutique virtuelle, et on crée un vrai lien comme ça entre les magasins physiques et les magasins digitaux pour les marques et pour pouvoir montrer l'ensemble des produits, même ceux qu'on ne peut pas exposer en vrai.
Une hausse de combien de demandes depuis le début de la crise là? Vous avez dit que ça avait énormément marché.
On n'a pas compté. Ce qui était important surtout pour nous, c'était de nous stabiliser parce qu'on est une quinzaine dans l'équipe. Donc là actuellement, on sort, on va dire 15-20 projets par mois. On était à deux en moyenne, donc voilà. Non, c'est assez énorme.
Donc la crise.
Après, on va voir ce que donne l'après crise.
Oui,
parce que l'après crise est aussi intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est il y a eu ce bond de révélation de digitalisation. Donc les commerçants se sont dit, il faut qu'on se digitalise. Moi, j'avais une grosse crainte, c'était que ça s'arrête après le déconfinement.
Et
en vrai, ce qu'on remarque, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils voient que les gens ne viennent pas encore dans les magasins. Alors il y a certaines marques, comme vous le dites très bien dans votre émission, il y en a pour qui ça cartonne, mais il y en a d'autres qui attendent toujours, des clients qui hésitent à aller en magasin.
Alors,
et donc c'est une solution qui a des chances de de perdurer et qui de toute façon fonctionnait avant.
Alors justement, des clients qui hésitent, des clients qui attendent, restez avec nous. Vous avez peut-être vous aussi attendu de longues minutes dans une file pour pouvoir entrer dans un magasin depuis le début du déconfinement. Et justement, des entrepreneurs ont eu l'idée de répondre à ce problème. Bonjour Pierre Prévoto.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le cofondateur de Moult, M-O-U-L-T. C'est tout neuf, c'est tout beau, ça existe depuis 10 jours. Oui. Vous avez osé monter votre plateforme qui facilite l'accueil des clients par prise de rendez-vous. Comment ça marche?
En fait, c'est très simple. Ça fait suite à une discussion avec nos parents qui étaient inquiets de retourner dans les boutiques. Et on voyait des files d'attente devant des magasins. Souvent, c'est des grandes enseignes. Qui créaient des systèmes de files. Ça n'avait pas l'air très pratique. On savait aussi qu'avec le déconfinement, il y allait avoir des jauges dans les magasins. Et on a eu cette idée de cette petite plateforme, moult.fr.
Alors, c'est quoi comme ça système permet... Vous offrez des créneaux de réservation, c'est ça, pour voilà, aller dans le magasin? C'est-à-dire?
C'est ça, en fait. Le professionnel, donc la boutique, crée un compte sur moult.fr. Et il ouvre par jour des créneaux. Alors, c'est des créneaux de 30 minutes. À une jauge maximale, par exemple, pas plus de 5 personnes dans la boutique. Ensuite, il partage le lien à ses clients sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais aussi avec un QR code.
Il montre qu'il a cette possibilité, qu'il a cette possibilité.
Il peut aussi afficher un QR code en façade.
Pour pouvoir se faire connaître, ou un lien pour les réseaux.
Voilà.
Et une fois que j'ai réservé entre 14h et 14h30, je peux venir dans cette boutique physique. Là, je peux tranquillement déambuler dans les rayons sans prendre de risque et sans avoir attendu.
Voilà, c'est ça. Le but, c'est d'éviter, en fait, de rentrer dans une boutique et de se retrouver avec 30 personnes autour de nous, de pouvoir, en fait, aussi. Voilà, ou d'attendre, parce que c'est aussi l'idée.
C'est surtout
que,
ça.
S'il y a 30 personnes qui font la queue devant la boutique, je scanne le QR code devant la boutique et je vois que si je repasse dans une heure, je serai tranquille, j'aurai 5 personnes avec moi grand maximum et mon créneau, il est garanti.
Luc Le Sénécal, notre coach.
Oui, je pense, Pierre, que c'est une excellente idée. Nous l'avons expérimenté, nous, à Saint-James, lors de la réouverture des magasins il y a 3 semaines. On ne savait pas trop comment le consommateur allait réagir. Et fait ce que veut le consommateur, en dehors du développement d'Internet, etc., c'est une expérience, un contact avec le produit, avec le client, avec l'enseigne, d'une façon différente. Et c'est un moment privilégié. Ça me rappelle un petit peu les petits déjeuners qu'on peut organiser pour lancer les collections dans les boutiques. Enfin, c'est ce que cherche. Et surtout, le consommateur qui sort du confinement a besoin d'humains, de contacts. Et c'est un moment plus relax. Il faut que les achats redeviennent un moment de détente avec du conseil pour justement que les magasins physiques puissent encore exister. Donc vraiment, je vous encourage, Pierre.
Ça va marcher. Il a besoin de. Vous avez raison, hein, Luc. Le consommateur a besoin d'humains, de contacts. Il a besoin de confiance en consommateur, n'est-ce pas, Élise?
Oui, absolument. On le constate dans tout le e-commerce. Hein, c'est le premier achat qui est le plus difficile. Une fois qu'on a sauté le pas, ça devient plus évident de renouveler ses achats. Et d'ailleurs, pendant le confinement, certaines enseignes ont constaté une hausse des avis clients sur leur site internet, ce qui pourrait aussi aider, puisque selon une étude menée en fin d'année dernière par YouGov, la moitié des Français fait confiance aux avis des internautes.
Voilà, avoir confiance aussi bien en ligne qu'à l'intérieur du magasin sans attendre pendant des heures. Ça s'appelle donc Moult et Diasc. Merci à vous d'avoir été avec nous dans La France Bouge. Il est 13h36.
Europe 1.
Une application qui essaye les vêtements à votre place. Ça existe et c'est ça, La France qui bouge.
Comment le secteur du retail se digitalise pour faire face à la crise sanitaire que nous traversons, c'est le dossier du jour dans La France Bouge, Elisabeth.
Et oui, parce que pendant cette période de déconfinement, c'est compliqué de s'acheter des vêtements. Les magasins sont tenus d'appliquer des règles d'hygiène très strictes, notamment pour les essayages. Et depuis quelques semaines, il existe Vertu. Vertu, ça s'écrit V-E-E-R-T-U-S. Bonjour Jean-Marie Caoudal.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Donc vous êtes le cofondateur de Vertus. Vertus est une plateforme à la disposition des enseignes de vêtements parce que d'abord les cabines d'essayage sont fermées actuellement et donc vous avez trouvé cette solution pour pouvoir acheter des vêtements qui nous vont sans les essayer, c'est ça ?
Exactement, vous avez
Comment
tout compris. Et, alors en fait, donc vous avez raison, en fait le contexte actuel est assez compliqué puisque même lorsque les cabines d'essayage sont ouvertes, finalement le vêtement reste en quarantaine. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Nous du coup, on a créé en fait un assistant shopping personnel qui vous permet finalement de scanner le code barre du produit et de savoir immédiatement si le produit vous va. Qu'est-ce qu'il va mettre en valeur chez vous sur votre silhouette et quelle taille vous allez devoir choisir.
Mais tous les produits ont des codes barres ?
Et tous les produits, oui, tous les produits ont des codes barres. En fait, tous les produits des enseignes partenaires ont des codes barres, exactement.
Comment ça se passe ? Vous, on doit déterminer avant notre silhouette parce qu'il ne va pas deviner avec le code barre comment on est. Donc, il y a
non,
au préalable,
tout à fait.
Un questionnaire, il y a quelque chose ?
Exactement. Pendant l'inscription, en fait, vous allez répondre à deux questionnaires, un questionnaire stylistique et un questionnaire morphologique. Très simple, hein. En fait, nous, on s'est vraiment concentré sur un questionnaire très abordable, très très accessible, qui va vous poser des questions assez classiques de votre taille, de votre poids. Vous demandez quelques informations, mais qualitatives de votre morphologie. Et ensuite... Et en réalité, la technologie, elle est derrière. Et grâce à ces informations-là, en fait, nous, on va pouvoir sélectionner parmi plusieurs milliers de silhouettes types que l'on a en base, la silhouette type la plus proche de vous.
C'est
l'intelligence
Donc,
artificielle.
C'est l'intelligence artificielle qui intervient pour m'aider à trouver le vêtement qui va le mieux m'aller, ou pas.
Exactement. Une fois que vous avez votre silhouette, nous, on est capable Nous, une fois qu'on connaît votre silhouette la plus proche, on est capable justement de pouvoir vous spécifier quel vêtement va vous aller, parce que tous ces vêtements là aussi sont rentrés dans nos bases et sont analysés très très finement. Chaque vêtement a à peu près une vingtaine de caractéristiques que l'on va déduire nous grâce à nos algorithmes aussi.
Luc Le Sénécal, notre coach, qu'avez-vous à dire à Jean-Marie Caoudal?
Oui, Jean-Marie, c'est une excellente idée, mais comment vous fonctionnez économiquement, votre modèle économique, qui paye quoi ?
Alors, pour les utilisateurs, c'est totalement gratuit. Vous pouvez vous inscrire et du coup bénéficier de ce service de manière totalement gratuite. Et nous, notre modèle est vraiment plutôt dans une approche B2B.
Des magasins.
Oui, exactement, à destination des enseignes. Et donc les enseignes vont payer en fait des services que l'on va pouvoir leur proposer. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ce lancement, nous on a une approche un tout petit peu spécifique parce que les enseignes ont quand même quelques enjeux là de redémarrage et nous en fait on a voulu jouer une carte de solidarité et de fait en fait on réduit notre prestation à un coût. Exactement, on réduit notre prestation à un coût de ce qu'on appelle un coût de setup. Et l'abonnement est gratuit sur toute l'année 2020
pour toute enseigne qui veut. Sur toute l'année de 2020, Élise, je me tourne vers vous. Il y a aussi un problème dans les magasins en ce moment, c'est l'écoulement des stocks. Et là aussi, on s'aperçoit que le digital peut apporter une réponse.
Et oui, il y a par exemple un site de vente en ligne ou plutôt de déstockage en ligne qui vient d'être lancé. Ça s'appelle Freakly. Et sur ce site, les ventes se font sur une période de 14 jours maximum avec un prix de départ fixé par l'enseigne qui va évoluer en fonction du comportement des acheteurs et de leur intérêt pour le produit. Alors, il y a tout de même un prix plancher, hein. Le but, c'est pas que l'enseigne vende à perte. Mais en tout cas, ça peut être une solution quand on a beaucoup d'invendus sur les bras.
Donc Vertu, hein, c'est pour essayer son vêtement sans vraiment l'essayer. Et dans le textile, il y a aussi eu l'effondrement des ventes, hein, provoquées par le confinement. Il y a des chiffres qui sont sortis là, à la fin du mois de mai par l'INSEE. Ces ventes ont chuté de 67,4% en avril. Il faut donc aider les enseignes qui n'ont pas encore pris la route du digital. Et pour cela, la Fédération française du prêt-à-porter apporte son soutien. Bonjour Pierre-François Lelouet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Alors vous avez créé une subvention à la transformation digitale. Elle est baptisée Plan d'amplification digitale pour aider donc toutes ces enseignes.
Exactement. Toutes les marques, petites ou grandes, qui cherchent justement à basculer sur le digital, puisque pendant longtemps, les boutiques ont été fermées et que pendant la période du confinement, beaucoup d'habitudes de consommation ont bien sûr évolué de la part des clients et des clientes du prêt-à-porter. Donc, voilà.
Il y a clairement un manque de digital auprès de certaines enseignes.
Oui, très clairement, même si ça a été une priorité pour beaucoup. Beaucoup de sites sont encore pas extrêmement bien adaptés. Au-delà des enseignes, beaucoup de petites marques aussi qui étaient très centrées sur une distribution qu'on appelle wholesale, c'est-à-dire qu'elles revendent à des concept stores ou à des grands magasins, n'étaient pas très très à l'aise avec tous ces outils digitaux. Donc c'est le moment, justement, pour toutes ces marques-là, de passer le pas. Et la Fédération, en mettant en place ce plan, en donnant des subventions à plusieurs dizaines de marques, va pouvoir accélérer le mouvement et permettre à toutes ces marques françaises de voir l'avenir un petit peu plus sereinement.
Donc, digitaliser, c'est quoi ? Vous allez numériser les collections ? Vous allez les aider comment ?
Oui, en fait, il y a deux axes. On a un premier axe qui est vraiment d'aider les marques à avoir un e-shop qui marche mieux que ce qu'il ne marche aujourd'hui. Donc, avec des solutions
plus actuelles,
des nouvelles fonctionnalités, etc., qui vont pouvoir être pluguées sur leurs e-shops. Et puis, le deuxième axe, c'est de leur permettre, malgré l'interdiction des voyages physiques, d'être en contact avec leurs acheteurs professionnels, donc toutes ces boutiques dans le monde entier qui ne peuvent plus venir à Paris pour découvrir les collections et qui vont pouvoir les découvrir sur des showrooms virtuels ou sur des salons virtuels.
Luc Le Sénécal, notre coach.
Oui, deux remarques. D'abord, Pierre-François, merci pour cette initiative, puisque nous aussi, on fait partie aussi du prêt-à-porter féminin, parce qu'on voit beaucoup de plans de relance, mais là, c'est quelque chose de concret et de précis. Et ça, en tout, un double avantage, c'est que vous allez, grâce à cette aide, permettre de renouer tout l'aspect digital avec les réseaux physiques, quoi. Et ces deux mondes qui vivaient souvent séparés, et là, vous les mettez en parallèle. Et l'un dépend de l'autre. Le digital dépend des réseaux physiques, et etc., etc. Donc vraiment, Pierre-François, merci beaucoup pour vous aider à profession.
Ça dépoussière un peu la Fédération française du prêt-à-porter aussi, hein, Pierre-François Leloué, hein, de venir comme ça apporter une subvention. Ça permet aussi aux entreprises de pouvoir présenter leurs projets là en ce moment.
Absolument.
Ça, c'est important de le dire.
Exactement, extrêmement moteur sur différents sujets. Les questions de l'innovation dans la mode, c'est une de nos priorités depuis 4 ans. La question de la RSE est une deuxième priorité. La responsabilité sociétale des entreprises et le développement durable également. Donc, je pense que depuis maintenant un certain moment, le prêt-à-porter a montré qu'il était en pointe et qu'il accélérait sur pas mal de points. Il a montré aussi, et vous en avez parlé à plusieurs reprises pendant cette crise que nous avons connue, que nous étions à la hauteur en confectionnant des masques pour des millions de Français. La mode avait joué parfaitement sa part dans l'industrie et dans la société d'aujourd'hui.
Et vous le montrez aujourd'hui avec votre soutien pour plus de digitalisation. Merci à vous, Pierre-François Leloué. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française du prêt-à-porter. Élise, qu'est-ce qui est sorti du lot pendant la crise concernant le retail ?
Incontestablement, c'est le e-commerce, grand gagnant de cette crise, porté notamment dans le secteur alimentaire par les drives, selon une étude Nielsen, publié il y a quelques jours. 5% des ménages faisaient leurs courses via un drive avant le coronavirus, un chiffre qui a doublé depuis la crise. Mais le drive et plus généralement le e-commerce ont surtout recruté de nouveaux adeptes, 7,4 millions d'acheteurs mensuels contre 5 millions avant le confinement.
Il est 13h49.
Europe 1.
Vous avez une entreprise, vous rencontrez des difficultés, l'équipe de la France Bouge est là, avec vous et avec CCI France. Et c'est le coup de main d'Europe 1. À tout de suite.
C'est la dernière partie de l'émission avec le coup de main de La France Bouge. Vous avez besoin des conseils de nos experts. Eh bien, écrivez-nous par mail e1-lafrancebouge@europe1.fr, Elisabeth.
Oui, c'est le moment de retrouver Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde.
De CCI France, chaque jour, hein, là, vers 13h50, vous épluchez les dossiers, vous donnez des conseils, des directions à prendre. Et aujourd'hui, c'est Sophie Latier. Bonjour Sophie Latier.
Bonjour mesdames. Plaisir de
On est ravis de vous entendre. Hein. On est ravis que vous ayez frappé chez nous pour qu'on puisse vous aiguiller. Vous êtes fondatrice et dirigeante de la société Le Niveau. Vous existez depuis 2 ans. Vous faites de l'architecture d'intérieur orientée sur les entreprises. Et on vous écoute.
Bah écoutez, merci de me donner l'occasion de pouvoir effectivement présenter mon activité. Moi, j'ai créé en fait une démarche innovante sur la conception et la réalisation des espaces de travail. Et aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir la mettre en avant puisqu'elle est vraiment d'actualité par rapport à tout ce qu'on a vécu.
C'est-à-dire,
ces derniers temps.
C'est quoi ? Vous proposez quoi ?
Alors, moi aujourd'hui, en fait, ce que je propose, c'est classiquement, quand on a besoin de repenser son espace de travail, on s'appelle un architecte d'intérieur qui travaille sur un cahier des charges matérielles. Et moi, en fait, je suis une ancienne DRH et pendant 20 ans, ben, j'ai travaillé la matière humaine. Et en fait, avant de démarrer tous mes projets de conception, eh bien, je vais déjà étudier le lieu existant pour voir les process de travail, les interactions sociales, comprendre vraiment tout ce qui fonctionne et dysfonctionne dans le lieu de travail. Et puis, je vais aussi étudier stratégiquement l'entreprise, comprendre sa politique RH, ses enjeux, l'évolution de ses métiers, qu'est-ce que sera l'organisation de demain. Tout ça pour pouvoir prendre en compte ces éléments qui sont essentiels dans la conception des futurs lieux. Et puis, le dernier élément qui est différenciant, c'est que je travaille en fait en concertation avec les équipes pour qu'eux-mêmes pensent et conçoivent les lieux de travail qu'ils vont utiliser au quotidien.
Alors, quelle est votre demande, quelle est votre question à Nathalie Carré ?
Eh bien, écoutez, ma demande, en fait, elle était déjà... La première, c'était de pouvoir rendre visible cette démarche qui est complètement innovante, la faire connaître auprès des entreprises, qui aujourd'hui, ben, je dirais, est vraiment un besoin de reconstruction de l'entreprise de demain. Et puis, plus particulièrement, j'ai envie de dire, c'était de m'aider en fait à trouver des entreprises pilotes qui souhaiteraient en fait expérimenter cette démarche et m'aider en fait à pouvoir...
Vous recherchez des clients.
Alors, pas que
c'est
des
ça.
Clients, mais...
Non, mais je résume un petit peu, mais c'est un petit peu ça.
C'est un peu ça, mais je cherche aussi à ce que ces clients m'aident aussi demain à pouvoir utiliser en fait le résultat de ce que l'on a fait chez eux pour pouvoir en fait déterminer des indicateurs probants de réussite de cette transformation sociale.
Alors Nathalie Carré, je vous laisse répondre.
Alors, en fait, j'avais préparé une réponse et je vais faire autrement. Vous venez de nous raconter votre histoire et là j'ai envie d'aller chez vous, voilà. Alors que quand j'ai préparé le dossier, je suis allée classiquement, hein, comme tout client qui pourrait se poser la question de refaire son intérieur, je suis allée sur votre site internet et sur votre site internet, en fait. Tout ça est pas mis en avant cette différence là, ouais. En fait, votre site, au début, on dit architecte d'intérieur,
mais c'est ça. Est-ce qu'on dit veut... j'ai trouvé ça, mais oui,
voilà. Et ce qu'on veut voir, c'est votre promesse. Et là, ce que vous venez de nous raconter, là oui, ça, c'est une vraie promesse.
Envie. Alors, c'est vrai.
Exactement. Et donc, et là, il y a toutes vos valeurs qui ressortent, il y a toute votre histoire, et c'est ça qui fait que on a envie de vous suivre
mais
et de travailler avec vous.
Vous vous différenciez.
Exactement. C'est vous qui faites la différence. Et c'est vrai que et du coup, moi, mon premier conseil, ça serait véritablement de retravailler sur une vraie offre avec une vraie promesse, une vraie proposition de valeur. Parce que vous parlez d'architecte d'intérieur, de rénovation, d'optimisation. Mais rénovation, c'est un moyen. C'est un moyen pour faire ce que vous dites. C'est-à-dire que les interactions sociales soient optimisées, que les gens sentent bien, soient bien dans leur travail. Et c'est totalement tendance avec ce que cherchent les...
Surtout après la période de télétravail.
Exactement. Ah oui. C'est comment on se sent bien dans ses locaux. Les open space sont vraiment remis en cause, mais ça fait longtemps, mais là encore plus aujourd'hui. Donc cette question de qualité de vie au travail, elle est centrale aujourd'hui, encore plus. Donc là, vous avez une jolie histoire à raconter et on la voit pas, cette jolie histoire. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet, en fait. Il n'y a pas vraiment de sujet de concept. Il y a un vrai sujet de marketing. Donc, de repenser une vraie offre. Et puis ensuite, sur votre site, vous parlez des entreprises et des particuliers. Et à un moment donné, il faut choisir.
Oui.
Parce que vous êtes toute seule. Attaquer le monde de l'entreprise, qui a quand même plein d'obligations, avec le monde du particulier, pourquoi pas ?
C'est encore autre chose. Ce sont deux axes différents.
Voilà. Donc, est-ce qu'il faut faire les deux en même temps, alors que vous démarrez je ne sais pas, est-ce qu'il ne faut pas faire des partenariats pour le coup ? Et par rapport à votre sujet des entreprises, bah, pour moi, la première entreprise à la porte de laquelle il faut aller taper, c'est celle qu'on a eue la semaine dernière, c'est Ma Bonne Fée. Oui. Toutes les entreprises qui travaillent dans le milieu de la QVT, de la qualité de vie au travail, forcément sont intéressées par votre offre. Parce qu'on est sur ce même sujet de bien vivre au travail. Donc, je vous envoie des choses hors antenne, mais vous avez une très belle entreprise à faire, vous à faire émerger.
C'est encore embryonnaire, mais il y a plein de choses à faire, Sophie. D'accord ? Vous nous entendez ?
Oui, oui, voilà. Je vous remercie pour votre retour. Et effectivement, je vous donnerai...
Vous nous donnez des nouvelles. Et je vous laisse poursuivre votre conversation hors antenne avec Nathalie Carré, notre bonne fée de CCI France. Merci Élise Dangean pour cette première.
Merci à vous.
Luc, on se retrouve demain.
Demain, Elisabeth.
Ah bah oui.
Bonne journée.
Allez, très bonne journée à vous aussi. À demain, c'est Elisabeth Assayag. Dans un instant, on retrouve Christophe Ondelat sur Europe 1.